Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui est revenu souvent, merci pour la louange, qui est revenu souvent dans le temps de ministère, c'était que Jésus se glorifie en nous. C'est-à-dire que, il quand même semble que c'est très fort et que le gain est beaucoup trop important. C'est-à-dire que, comment vous dire ? Il est vrai que quand on suit le Seigneur, on est glorifié. Le Seigneur nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est bien celui qui s'abaisse qui sera élevé. Mais il faut bien comprendre que Dieu n'est pas orgueilleux. Il a simplement conscience du fait qu'il est l'absolu. Et il veut se glorifier en nous, dans cette génération. Pasteur Marie-Hélène dit souvent qu'un tuyau qui arrose est forcément arrosé. L'intérieur du tuyau est forcément mouillé, en laissant passer le flot. Mais je pense qu'il faut qu'on aspire à ce que, non pas le Seigneur nous élève, mais que et il le fera de toute façon, mais que le Seigneur se glorifie en nous. Le Seigneur se glorifie par ta santé, il se glorifie par ta prospérité, il se glorifie par toutes les évolutions que tu peux avoir dans ta vie, par le fait que tu grandisses, par le fait que tu sois guéri dans ton âme, à tous égards. Il se glorifie. Vous comprenez ? Et ça venait souvent tout à l'heure, et ça c'est quelque chose qu'on peut prier. Manifeste-toi à travers moi dans cette génération pour ta propre gloire. Amen ? Mais seulement on a une vision humaine des choses et on pense que ça peut paraître un peu orgueilleux. Quoi. Il n'y a pas de problème à dire qu'on est le meilleur quand on l'est. Et Dieu est l'absolu. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Alors, on me fait signe qu'il faut que je... Alors, je suis heureux de pouvoir partager la parole avec vous à nouveau. Vous avez pris vos Bibles ce matin ? Parce qu'on va la regarder. On va la regarder. Regardez avec moi dans Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Au verset 1, il nous est dit : Que dirons-nous donc ?
Oh.
Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Vous savez, c'était le grand débat, on accusait Paul. C'est amusant parce que pour la première fois récemment, on m'a accusé de ça aussi. Ça y est, ça commence, c'est bien. On a accusé Paul à l'époque de dire, bon, mais oui, alors Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, Jésus a payé pour nos péchés, donc c'est open bar, quoi. Ça y est, on peut y aller. Et Paul dit, attends, mais quoi ? Donc, on va demeurer dans le péché, parce qu'en plus, la grâce, nous est-il dit, surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce surabonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce que nous vivrions encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que la nouvelle naissance est en réalité une résurrection. Et pour pouvoir ressusciter, il faut mourir. Dans la nouvelle naissance, il y a d'abord une mort qui se fait, une identification à la mort de Christ, et ensuite, nous naissons de nouveau. Il nous a dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ma femme me dit toujours, est-ce que, quand je vais prêcher là depuis 3-4 fois, est-ce que tu vas enfin apporter la suite de ton message sur l'espérance ? Non, pas cette fois-ci. Mais il se trouve qu'en étudiant ce sujet, je pourrais dire, oui, c'est presque la suite de mon message sur l'espérance. L'espérance, on l'a vu ensemble, c'est l'espérance de la résurrection, dans 75% des cas du Nouveau Testament, de la résurrection des morts. Mais ici dans Romains, il nous est dit, comme souvent avec la nouvelle naissance et avec le salut, il y a deux aspects. Il y a un aspect futur, mais il y a un aspect présent. L'aspect futur, c'est que tu vas avoir un corps glorifié. Oh, le Seigneur va te ressusciter, l'Esprit qui est en toi te ressuscitera pour ce corps glorifié. Mais dès à présent, il nous est dit que nous avons été baptisés avec Christ en sa mort et nous sommes déjà, d'une certaine façon, ressuscités par la nouvelle naissance et par la régénération du Saint-Esprit, afin, nous est-il dit, que nous marchions en nouveauté de vie. Aujourd'hui, on va voir plusieurs versets qui sont assez intéressants parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Et pourtant, il leur dit, il ne faut plus que vous viviez comme vous viviez avant. Il ne faut plus que vous marchiez comme ce monde marche. Il faut rompre avec le péché. Il faut changer de façon de vivre. Il ne faut pas vous laisser entraîner sur le même courant que ce monde. Et il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Ce qui m'amène à dire, ce n'est pas parce que nous naissons de nouveau que automatiquement notre vie est une vie sainte et pieuse. Nous avons un travail à faire. Nous avons des efforts à faire. Notre esprit est sauvé. Et gloire à Dieu, nous irons au ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. Le message d'aujourd'hui est un message, on pourrait dire, de rééquilibrage. Il est vrai que la grâce de Dieu est à notre disposition. Et elle abonde et elle surabonde et le Seigneur se glorifie dans sa grâce. Bien entendu que tous nos péchés, passés, présents, futurs, ont déjà été pardonnés pour le Seigneur. Néanmoins, nous avons du travail. Néanmoins, nous devons faire des efforts pour marcher en nouveauté de vie. Et néanmoins, nous allons le voir, la grâce de Dieu peut devenir, y compris pour les chrétiens, un prétexte pour vivre selon la chair. Et j'ai entendu beaucoup jusqu'à présent que plus tu prêches la grâce de Dieu, plus les gens vont être amenés à connaître l'amour de Dieu, moins ils marcheront dans le péché. C'est vrai, encore faut-il néanmoins connaître la vraie grâce de Dieu. Encore faut-il néanmoins avoir pleinement conscience de l'amour de Dieu pour que, submergés par cet amour, nous changions de style de vie. Mais en attendant de découvrir au fur et à mesure, plus tu découvres cette grâce, plus tu découvres cet amour, plus ta vie se transforme. En attendant, tu as quand même des efforts à faire. Nous avons quand même des efforts à faire. Ici, il nous est dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est ce que Paul essaie d'expliquer ici. La nouvelle naissance, tu es greffé sur le cep. Ce qu'il y a dans le cep vient en toi. Or, ici, il nous est dit que cette greffe est une greffe où nous devenons conformes à Christ dans sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La bonne nouvelle ici, c'est que ta nouvelle naissance fait que, en ayant été greffé à Christ dans la mort de Christ, c'est quelque chose de spirituel qui se passe. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Contrairement aux gens qui n'ont pas vécu cette greffe à Christ et en qui la nature pécheresse les poussera systématiquement à pécher. En ce qui nous concerne, nous ne sommes plus obligés. Notre nature à l'intérieur de nous change. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Parce qu'il y a une rééducation qui est à faire. Parce que notre âme, on l'a vu la dernière fois que j'ai prêché, a besoin d'être renouvelée et qu'une âme non renouvelée, par exemple une âme blessée sur certains sujets, va t'amener à t'éloigner de la volonté de Dieu, va t'amener à ne pas avoir pleinement conscience de ce qui est à toi, va t'amener à marcher dans le doute, l'incrédulité, les offenses, va peut-être provoquer des addictions chez toi. Et il y a des efforts qui sont à faire. Ici, il nous est dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, et c'est le cas, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Donc je m'adresse à des morts vivants ce matin, finalement. Mort au péché, vivant pour Dieu, libéré du péché, plus esclave du péché, maintenant appelé à vivre une vie sainte et pieuse pour Dieu. Nous avons la capacité de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est la vie de Christ qui est en nous. Et si Christ est mort au péché, le péché ne le domine plus. Même chose pour toi et pour moi. Il nous a dit ensuite au verset 12 « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. » Mais s'il dit ça à des chrétiens, s'il dit « Que le péché ne règne pas dans ton corps », c'est que le péché était en train de régner dans leur corps. Et c'était des chrétiens. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Tu dis « Ah, je ne peux pas faire autrement. » Faux. Maintenant la question c'est, et je ne vais pas reprêcher ce que j'ai prêché la dernière fois, est-ce que tu laisses le Seigneur faire ce qu'il veut en toi? Est-ce que tu laisses Dieu te toucher dans les différentes parties de ton âme comme il souhaite le faire? Parce que si tu ne le fais pas, si tu lui fermes la porte, alors les blessures, les rancœurs, les incompréhensions qui sont dans cette pièce-là vont forcément avoir un impact dans ton âme et donc dans ta vie. Mais si tu laisses le Seigneur faire ce qu'il a à faire, alors tu vas commencer à avoir du changement. Tu vas te rendre compte qu'il est plus facile finalement de changer sur certains points que ce que tu pensais, voire même c'est automatique. Mais il faut laisser Dieu faire son travail. Donc, n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, décidément ça fait un peu zombie cette histoire, mais bon, à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais nous avons quand même une instruction ici. Arrêtez de livrer notre corps au péché. Alors attention, hein, livrer notre corps au péché, bon, je ne connais pas tout le monde ici, mais on a tout de suite des images, des trucs horribles. Non. Ça peut être des choses très simples, d'accord ? Du quotidien. Mais la Bible nous dit que, par exemple, il faut arrêter tout ce qui est colère, fureur, calomnie, ce genre de choses. Grossièreté. Tu vois, c'est pas des trucs... Mais ça fait partie du péché. Et la Bible nous dit ici, arrête de livrer tes membres, en l'occurrence ça peut être ta langue, comme instrument du péché, mais au contraire. Offre-la à Dieu comme un instrument de justice. Et tu as la possibilité de le faire. Voyez-vous, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Les bienfaits de l'obéissance ». Et c'est quelque chose sur lequel Dieu est en train de me travailler. Obéis. Obéis. Je sais que tu es profession libérale, tu aimes faire ce que tu veux, gérer ton emploi du temps comme tu veux, gagner ta vie comme tu veux, tu n'es pas soumis à un patron, quoique maintenant le vendredi, oui. Mais obéis. Tu vas apprendre à obéir. Sauf qu'on a une vision très humaine des choses, c'est-à-dire le coup de bâton, le képi, l'avertissement. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu, vous allez voir. Paul continue. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non pas sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui de qui vous obéissez. C'est-à-dire qu'au début, tu penses dominer, tu penses maîtriser, tu penses contrôler, finalement tu es esclave de celui à qui tu t'es soumis. Et c'est lui qui prend le dessus ensuite. Soit du péché qui conduit à la mort, il n'y a pas d'alternative. Le péché conduit à la mort. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais je trouve très intéressant de voir à quel point s'adresse à des chrétiens, parle du péché. Le Seigneur s'adresse à nous. Il faut que tu traites cela. Il faut que je traite cela. Et l'obéissance, elle conduit à quoi ? À la justice, il nous est dit ici. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à quoi ? À l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à quoi ? À la sainteté. L'obéissance conduit à la justice. Le fait de livrer nos membres comme esclaves à la justice, c'est-à-dire d'obéir à Dieu tout simplement, dans notre corps. Vous allez voir que je parle de choses très concrètes, très pratiques aujourd'hui. Amène à quoi ? À la sainteté. L'objectif final, c'est la sainteté. Ouais ? Il plane comme un froid glacial, automnal sur cette salle. Mais c'est ok. C'est pas grave. Écoute, il m'a jamais dit les gens vont sourire hein, quand tu prêches. Hein, donc, il m'a dit prêche, je prêche. Donc la grâce, et je suis 200% pour la grâce, la foi, et je suis 200% pour la foi, ne nous dispense pas de l'obéissance à Dieu. Et je vous dis que c'est un message de rééquilibrage, ça l'a été pour moi, parce que on a peut-être tendance à tomber dans un extrême, qui consiste à dire, bon, grâce, foi, le Seigneur même, c'est formidable, je fais quoi ? Je vis ma vie comme je l'entends. Et je vis ma vie comme je l'entends, le pire, c'est que c'est... Bon, mais comme j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est que c'est forcément guidé par Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur équilibre en disant « On va jauger un petit peu. » Comment parles-tu ? Comment te comportes-tu ? Comment traites-tu les autres? Quelles sont tes motivations? Que fais-tu de ton emploi du temps? Que fais-tu de ton argent? Que fais-tu de... voilà. Est-ce que tu es une pierre d'achoppement pour les autres? Est-ce que, tu sais, toutes ces instructions pratiques qui sont dans Romains, qui sont dans, à la fin d'Éphésiens, etc., sur la relation, la soumission aux autorités, la relation avec les maris et femmes, les enfants par rapport aux parents, la soumission au pasteur, quand il est question de traiter les autres avec respect, de s'aimer d'un amour ardent, de faire toujours passer l'autre en premier, toutes ces instructions pratiques, j'ai eu tendance, je vais parler pour moi, à m'en affranchir quelque peu en disant « oui, mais bon, c'est pas le plus important, quoi, ça va ». Plus important, c'est ma relation avec Dieu. Et le Seigneur dit oui, tu passes complètement à côté des bienfaits de l'obéissance. Et vous avez remarqué que dans l'alternative qui est là, on n'a que deux possibilités. Soit j'obéis à Dieu, je livre mes membres à la justice et c'est un acte volontaire de ma part. Soit, par défaut, je laisse aller. Et dans ce cas-là, je suis en train de livrer mes membres comme un instrument du péché. Oh, c'est pas un problème, ça amène juste à la mort. D'une façon ou d'une autre. Mais la justice t'amène à la sainteté. On continue ? Regardez avec moi maintenant dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, au verset... Non, pardon, gardez 1 Pierre, mais je voudrais juste vous lire Galates avant cela. Au verset 5, au chapitre 5, verset 13, il nous est dit « Frères et sœurs, oui, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il s'adresse à nouveau à des chrétiens. Oui, nous avons été appelés à la liberté, absolument. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Ah, mais je suis libre, le Seigneur m'aime, je vais au ciel, c'est formidable, et puis de toute façon, bon, c'est pas dit comme ça, c'est pas pensé comme ça. Le Seigneur efface mes péchés. Non, mais c'est même pas un péché. Si c'était un péché, le Seigneur me le montrerait. Je lisais un catalogue, un magazine des Copland là, cette semaine. Et ils parlent toujours aux gens de la foi, de booster leur foi, etc., etc. Et ils disent à un moment donné, ils disent, oui, peut-être que vous dites, ah, mais c'est difficile, j'y arrive pas. Il dit, ouais, c'est sûr. Combien de temps tu passes à regarder des émissions remplies de meurtres le soir à la télé? Pourquoi t'éteins pas un peu les ordures, là? Non, mais ça va, c'est New York section criminelle, c'est cool, et puis c'est des histoires vraies, tu sais. Non, mais j'ai rien contre, je suis pas dans votre téléviseur, mais... On va se juger chacun soi-même. La Bible nous dit que si on se juge soi-même, les autres ne nous jugent pas. Donc c'est très bien. Nous ne sommes pas jugés. La question est, à quoi est-ce que j'utilise la liberté que Dieu m'a donnée? Est-ce que je l'utilise comme un prétexte pour vivre selon la chair? Parce que c'est ça finalement, c'est selon la chair. On a vu que la chair, ce n'est pas simplement la chair au sens corps, physique. C'est aussi toutes les pensées, la façon de penser qui n'est pas conforme à Dieu, tout simplement. D'autres versions disent « pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes ». Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Maintenant, 1 Pierre 2, versets 15 et 17, il nous est dit « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, donc il y a un bien à pratiquer, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il y a des fois où ça ne sert à rien de se justifier, ça ne sert à rien de crier, de faire des procès, ça ne sert à rien. Tu as une manière de fermer la bouche aux accusateurs et aux calomniateurs. Pratique le bien. C'est la volonté de Dieu. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Il s'adresse à qui? À des chrétiens. Souvenons-nous toujours que ces gens s'adressent à des chrétiens. Sans faire donc de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, tiens, je voulais des instructions pratiques, en voilà. Respectez chacun. Aimez les frères et sœurs. Craignez Dieu, honorez le roi. Et il s'agit du roi avec une minuscule ici. Donc des autorités civiles. D'accord ? Mais ça fait deux fois qu'il est question de dire attention à ne pas utiliser ta liberté comme un prétexte pour pouvoir faire ce que tu veux, pour pouvoir vivre selon la chair. Donc, l'obéissance nous conduit à la justice, à la sainteté. L'obéissance, ici c'est écrit, nous réduit au silence nos adversaires. Pardon. Tu savais ça ? En général, quand quelqu'un nous attaque, on n'a qu'une envie, c'est de se défendre. Ici, le Seigneur nous donne une autre manière de faire. Dans certains cas, c'est ta simple obéissance à Dieu qui va réduire tes adversaires au silence. Et il nous est dit en plus, donc, ne faites pas de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissez au contraire comme des serviteurs de Dieu. Ce qui veut dire, si tu obéis à Dieu, tu es en train de le servir. Ce qui m'amène, un peu plus loin, on va en parler, à qu'est-ce qu'un service pour Dieu ? Concrètement. Donc, est-ce que j'use de ma liberté pour couvrir ma méchanceté ? Faut que chacun se pose la question. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Du grec. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais la méchanceté, ça vient de kakos en, en grec. Et c'est tout ce qui est le mal, la malice, la dépravation, la peine, tout ce qui est bas, tout ce qui est faux, méchant, gênant, injurieux ou destructif. Ok ? Est-ce que j'use de ma liberté comme d'un voile pour couvrir quelque chose qui en réalité est destructif dans ma vie ou dans celle des autres ? Vous voyez, quand on pense mal, méchanceté, non. Est-ce que tu fais des choses qui sont destructives dans ta vie ? Chacun répond pour lui. Hébreux, chapitre 11. En tout cas, personne ne dort. C'est déjà ça. Presque personne ne dort, mais je ne citerai pas de nom. Hébreux 11, 1, il nous est dit la foi... Non, pardon, je dis une bêtise, attendez, où suis-je ? J'ai pas noté la référence, tant pis. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, vous savez où c'est ? J'ai pas la référence du verset, je l'ai pas noté. Hébreux 12, 1, merci. Effectivement. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il s'adresse à qui ? Des chrétiens. Hébreux, a priori, donc d'origine juive. Soit, mais ça nous concerne également. Le péché nous enveloppe si facilement. Tu dis, mais je suis né de nouveau, je ne suis plus esclave du péché. C'est vrai, mais il peut quand même t'envelopper. C'est comme un manteau que tu peux mettre sur tes épaules. Rejetons ça et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Persévérance, ce qui veut dire que l'obéissance à Dieu va nécessiter de la persévérance. Ce qui est également une bonne nouvelle, parce que ça nous annonce tout de go qu'on ne va pas tout réussir du premier coup. Sinon, il n'y aurait pas besoin de persévérance. C'est un processus. Ensuite, il nous est dit, comment le faire ? Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Donc, comment obéir à Dieu ? Comment ne pas se décourager ? Comment rester persévérant ? En gardant les regards sur Jésus. Comment est-ce que tu peux garder les regards sur Jésus ? En lisant sa vie dans sa parole, en méditant sur sa vie dans sa parole. Il nous a dit, en échange de la joie qui lui était réservée, donc il savait qu'il y avait une joie qui allait venir, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Parce que la crucifixion n'est pas que quelque chose de douloureux, c'est également quelque chose de honteux. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet, verset 3, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Il faut penser à ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ? Toi, tu partages ta foi une fois de temps en temps, et de temps en temps, tu tombes sur quelqu'un qui dit « N'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est pour les faibles, ton truc, c'est nul. » Tu crois vraiment à ça ? Eh oh, on est au 21e siècle, hein, qu'est-ce que c'est que ça ? Une fois de temps en temps. Non, lui, c'était tous les jours et plusieurs fois par jour. Une telle opposition. Et quand ce n'était pas une opposition doctrinale, c'était une opposition physique. On voulait le tuer. On a déjà essayé de te tuer pour ta foi. Tu as déjà dû t'enfuir parce qu'il y a des gens qui voulaient te taper dessus à coup de batte ou t'envoyer des cailloux dans la tête. Ou... Moi, jamais. Lui, c'était pas quotidien, mais presque, d'après les Écritures. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc, ici, on a une manière très concrète, très pratique, de continuer à persévérer dans l'obéissance, de ne pas se laisser décourager par l'opposition qu'on peut rencontrer ou par nos propres échecs. Gardons les regards sur Jésus, fixons les regards sur Jésus, méditons sur la course de Jésus, sur ce qu'a été sa vie sur terre, sur ce qu'il a rencontré comme opposition, sur la fermeté dont il a dû faire preuve, la discipline dont il a dû faire preuve, l'encouragement du Saint-Esprit qu'il a reçu lui aussi. Et en gardant les regards sur lui, nous allons nous rendre compte que nous avançons de mieux en mieux dans l'obéissance. Nous allons nous rendre compte que c'est beaucoup plus facile de rejeter le fardeau du péché. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Ok, super. Ensuite, il nous est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'obéissance à Dieu, ça se fait avant tout en gardant les regards sur Jésus. Passer du temps à méditer sur son engagement, sur sa consécration. S'il avait vécu à notre époque, est-ce qu'il aurait été tenté de regarder, on va changer maintenant, les experts Manhattan ? Certainement. Certainement. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il lutte contre cette chose-là ? Certainement. Est-ce qu'il aurait été tenté de parler d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière ? Comme nous tous. Gardons les regards sur lui. Il nous a dit qu'il fait naître la foi et il l'amène à la perfection. Il l'amène à la perfection. Donc en obéissant au Seigneur, en gardant les regards sur lui, en réussissant à s'affranchir au fur et à mesure du péché, notre foi va être perfectionnée. Ce qui est intéressant quand on sait quels sont les bénéfices de la foi. L'obéissance, voyez, et c'est là où ça devient intéressant. Et il y a une fine limite entre ce que je prêche et les œuvres. On va essayer de ne pas tomber dedans. Il nous est dit ici que l'obéissance à Dieu va te permettre de rejeter le péché, va te permettre une plus grande consécration, va faire que le Seigneur va amener ta foi à la perfection. Cette foi perfectionnée, je ne suis pas forcément parfaite, mais en tout cas perfectionnée, va te permettre d'obtenir par la foi. Mais si on fait un raccourci, on va dire que c'est par les œuvres que Dieu nous exauce. Or, pas du tout. C'est par les œuvres, les bonnes œuvres, l'obéissance à Dieu, que ta foi est rendue parfaite. Ça ne veut pas dire que tu places ta confiance dans tes œuvres pour mériter de la part de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a un bienfait à l'obéissance en ce qui concerne notre foi. Ça va ? Ok. Tu vas doucement. Hein. Ensuite, il nous est dit, verset 5, « Donc vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement. » Il est en train de parler à des gens qui étaient complètement découragés. Et qui avaient arrêté de regarder vers Jésus, et qui avaient oublié l'encouragement. Quel encouragement ? Celui qui nous est adressé comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit, je vais m'expliquer là-dessus, tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. » Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils, c'est-à-dire des enfants qu'on a eus dans le secret et dont on ne s'occupe pas, dont on se fout. Ah, on ne corrige pas, c'est sûr. On n'éduque pas. Mais si c'est un enfant qui est un enfant légitime, qui vit sous ton toit, alors tu l'éduques et tu le corriges pour le faire progresser. Ici, il est dit, on n'est pas abandonné par Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons une relation avec Dieu, ça veut dire que Dieu va nous redresser à un moment donné. Il va nous corriger. Et l'idée, c'est le kiné qui te remet les cervicales en place. D'accord ? Pas le kiné qui te tabasse avec un truc pour te remettre les cervicales en place. Il te manipule, dans le bon sens du terme. D'accord ? D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, d'autant plus, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? L'obéissance provoque la vie. Si tu te soumets à ton Père céleste, tu auras la vie. C'est ce qui est écrit ici. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils trouvaient bon. Comme ils trouvaient bon. Qui s'est déjà pris une tannée injustifiée ? Non, bah, je baisse la main, alors je suis le seul. Ah, merci. Ah bah oui, mais on a la même... Non, quelqu'un d'autre de ma famille, toi là-bas. D'accord. Non, vous êtes bien. Jamais vous vous êtes pris une volée en disant « Mais j'ai rien fait, c'est pas moi !» Et en plus, tu causes, qu'est-ce que tu... À l'époque, c'était la maîtresse t'a puni, bram, quand tu rentres à la maison. Maintenant, c'est la maîtresse t'a puni. Attends, je vais voir la maîtresse. Bram. Si elle t'a puni, c'est que t'as fait quelque chose. Mais j'ai rien fait. Et tu te tais en plus. Hein. Comme il trouvait bon. Un peu au petit bonheur la chance. Mais il nous est dit que Dieu le fait pour notre bien. Afin que nous participions à quoi ? À sa sainteté. L'obéissance provoque la vie. L'obéissance, c'est-à-dire Dieu te corrige. Vous allez voir que c'est lié les deux. Hein. Obéissance et correction. Pour te faire participer à la sainteté. Et dans la sainteté, il y a la gloire, il y a tout ce dont tu as besoin, il y a la séparation, sainteté, consécration, sanctification, c'est la même racine, tout ça, ça veut dire séparer d'eux, sécateur. Couper de tout ce qui va être une cause de mort dans ta vie. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, c'est vrai, et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, retenez ce mot exercice, on va en reparler plus tard, un fruit porteur de paix, deux points, la justice. L'obéissance va t'amener la paix, va t'amener la justice dans ta vie. Comment est-ce que Dieu nous corrige ? Certainement pas par la maladie, certainement pas par la mort, certainement pas par les coups de bâton. Dieu nous corrige par sa parole. C'est ce qui est dit dans 2 Timothée 3,16, vous le lirez à la maison. Toute écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Quand tu lis à un moment donné quelque chose et que le Saint-Esprit te travaille sur quelque chose, ta conscience te parle. C'est ça la correction de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu t'envoie un cancer pour te dire « Ah, tu as mal fait et tu as... » Non, pas du tout. Quand ton pasteur, par exemple, attire ton attention sur quelque chose qui devrait être corrigé chez toi, comment le prends-tu ? Une énième lubie du tyran ? Ou peut-être Dieu qui a quelque chose à te dire ? Et je dis ton pasteur, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu Dieu me parler à travers la bouche d'un inconverti, dans le cas d'une conversation tout à fait banale. Parler, il se retenait. Par contre, toi... À ce niveau-là, Je suis reparti. Aujourd'hui, je m'en souviens encore, c'était il y a plus de 15 ans. Et je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, à travers la bouche d'un âne, comme dans les Écritures. Donc, Dieu te corrige de cette façon-là. Si on a une conscience, ça sert à quelque chose. Il te corrige de cette façon-là. C'est ça la correction dont il est question dans les passages que nous venons de lire. Et c'est vrai qu'au début, ça ne fait pas plaisir. Et c'est vrai qu'au début, ça tiraille un peu. Et c'est vrai qu'au début, oui, mais j'ai le droit ! Oui, mais tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, de ce qu'elle m'a fait. Au début, la correction, c'est un sujet de tristesse, oui, on pourrait dire. Mais finalement, si tu acceptes de t'y soumettre, les bienfaits de l'obéissance, Dieu dit, pardonne. Mais je ne peux pas. Je sais que tu ne peux pas. Mais moi, je peux en toi. Est-ce qu'au moins tu acceptes ? Si tu acceptes, comme dans tout, je vais te donner la capacité de le faire. C'est ce que Jésus a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Là où tu es faible, c'est là que je suis fort. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il se glorifie en nous. Finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on aura comme mérite ? Rien, zéro. Oui, un peu de bonne volonté, avoir accepté de collaborer. Mais c'est lui qui aura tout fait à travers nous. C'est pour ça qu'on lui renvoie les couronnes de gloire. C'est à toi qu'elle revient. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça ? Et ce qui est extra avec Dieu, c'est qu'il fait le travail en toi et ensuite il te récompense. La générosité de Dieu, elle nous dépasse complètement. Hein. Il nous corrige de cette façon-là. Et lorsqu'on obéit, il y a des fruits, il y a des bienfaits. Hébreux 11, maintenant, regardez juste quelques versets avant, au verset 28. Non, ça ne peut pas être ça. 11, 28, où suis-je ? C'est par la foi, c'est pas celui-là. Est-ce que ce serait toujours 12, décidément, les références ? Oui, on est toujours dans 12, excusez-moi. 12, 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Ça vous dirait d'être inébranlable dans la société dans laquelle on vit? Peu importe ce qu'on entend dans nos vies, dans nos familles, dans notre boulot, dans notre peu importe. L'économie, peu importe les virus, peu importe. On est inébranlable, on ne bouge pas. On bouge dans le sens où Dieu est quelqu'un qui bouge, mais je veux dire, on n'est pas détruit, terrorisé, affolé, perdu. Le royaume auquel nous appartenons, le royaume que nous recevons est un royaume inébranlable. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce. La grâce, tu gardes les yeux sur la grâce de Dieu, tu ne cherches pas à mériter, tu sais que Dieu t'aime, tu sais que c'est lui qui fait le travail, tu sais que c'est lui qui va se glorifier en toi, c'est lui qui t'a tout pardonné, c'est lui qui va au-delà de tes erreurs. C'est la grâce, on s'attache à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il y a beaucoup de gens à travers cette planète qui font des efforts terribles pour rendre à Dieu un culte pensant lui être agréable. Je pense notamment en Amérique du Sud, vous avez sans doute vu ces gens qui se flagellent, il y en a même qui se crucifient. Hein, pour lui être agréable. Seulement ici, il nous a dit non, non, non. Pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, d'abord, il faut s'attacher à la grâce. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la vraie grâce va t'amener à l'obéissance. Mais il nous a dit ici qu'il y a une attitude de cœur, avec respect et avec piété. Et mon message d'aujourd'hui, c'est aussi un encouragement à dire, vérifions notre attitude de cœur. Vérifions notre attitude lorsqu'on franchit, j'allais dire les portes de l'église, mais en réalité, c'est même pas vrai, parce que quand tu vas les franchir dans l'autre sens, tu devras tout autant vérifier ton attitude de cœur. Tous les jours, tu vérifies ton attitude de cœur. Est-ce que je suis d'abord attaché à la grâce? Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu, à faire ce qu'il me dit de faire? Seigneur, si tu me dis d'aller en Afrique, j'irai. Oui, mais je te demande déjà de parler différemment. On pense des gros trucs, les... Non, 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 au quotidien. Et respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Donc la vraie compréhension de la grâce nous amène à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable dans le respect et la piété. Je vous le cite uniquement. Quand on dit rendre à Dieu un culte qui soit agréable, ça peut vous faire penser à Romains 12. Vous savez, quand il est dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, on va le regarder parce que le verset mérite d'être décortiqué un petit peu. Romains 12. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? 53%, c'est déjà ça. Chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, ce qui suit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut lire les choses dans l'ordre. Il nous encourage à faire ce qui suit par les compassions de Dieu. Donc on a vu que c'est la compréhension de la grâce qui t'amène à obéir à Dieu. Là, il nous dit, je vais vous encourager à obéir à Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous connaissez la suite du verset. Mais je vous encourage, ça se fait, décidément, ouvrez les parapluies au premier rang, parce que je... Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Et trop souvent, on a essayé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant sans avoir en tête, non, mieux que ça, sans au préalable s'être complètement immergé dans la grâce et l'amour de Dieu. Ça va dégénérer dans les œuvres. À quoi ça sert de te crucifier par la chair, je fais tout par mes forces, parce que je veux plaire à Dieu, parce que je veux... C'est possible de le faire, hein. Même en tant que chrétien, c'est possible de le faire. Je vous encourage par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ah, tu vois qu'il faut se crucifier? Non, ce n'est pas ce qu'il est dit. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça veut dire quoi offrir son corps? Tiens ta langue. Offre ton corps, ça veut dire, comme un sacrifice, ça veut dire accepte, comment c'était, de crucifier ta chair. Ah, accepte d'écraser ta chair, accepte de dominer ta chair, accepte de dire, c'est pas toi qui décides. Et je vais faire des efforts maintenant, par la grâce de Dieu, je vais y arriver, pour changer sur certains points. Agir différemment, parler différemment, se comporter différemment, penser différemment. C'est ça, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ah, mais moi je suis pas du matin. Eh bien, tu vas le devenir. Je me parle à moi-même. Garde les yeux baissés, chérie. Je la prends pour moi, je la prends pour moi. Et c'est vrai que je ne suis pas trop du matin. Et il va falloir que je le devienne. Ça s'appelle offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ok ? Vous vous souvenez, on l'a lu tout à l'heure. Hein. C'est dans quel verset ? Je ne sais plus, ça devait être dans Hébreux, je pense, où il est question d'être agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part, donc cette façon d'agir, le fait d'accepter d'obéir, le fait de dire « je vais changer sur certaines choses ». Ce sera de votre part, il nous a dit, un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut ? Raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans vos Bibles ? Spirituel, peut-être ? Raisonnable, rationnel, intelligent et spirituel dans d'autres versions. C'est curieux. D'un côté, on parle de la raison, donc mon cerveau, de l'autre côté, on parle du spirituel. Et c'est les traductions concordent. Parce que le mot grec est utilisé tantôt dans un cas, tantôt dans l'autre. Ce qui me fait dire que la vraie spiritualité est complètement rationnelle. Et qu'une intelligence renouvelée est complètement spirituelle. Et je vous renvoie mon message de la dernière fois à ce sujet. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que les gens qui veulent adorer Dieu, souvent se disent « bon, comment je peux servir Dieu ? Comment je peux rendre un culte à Dieu ?» Rendre un culte, servir, c'est la même chose. Comment je peux l'adorer ? Je lève les mains, je chante, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oui, tout ça c'est vrai. Je viens à l'église, je donne ma dîme, je sers Dieu. Est-ce que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant ? Est-ce que tu le fais par les compassions de Dieu ? Imbibé de sa grâce ? Ou bien, est-ce que tu utilises ta liberté comme un voile pour faire ce que tu veux ? Dans ce cas-là, prends-le comme tu veux, tu ne sers pas Dieu. Parce que le service que Dieu réclame, c'est exactement celui-là. Même si tu es là tous les dimanches matins à 8h. Moins le quart. Non, non, je ne te vise pas particulièrement. Non, non. Ou à, si tu es là tous les... peu importe, vendredi à 14h. Ça n'a aucune importance. C'est ça le culte que Dieu réclame. C'est pas des grands mots, c'est pas de la grande théologie, ça n'est pas... Ça commence par là. Je continue. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Oui. Bien. J'ai fait tout un speech pour vous expliquer raisonnable et spirituel, mais on va le laisser de côté, c'est trop long. Mais la synthèse, c'est le culte raisonnable qui consiste à offrir notre corps comme un sacrifice vivant conformément à la parole de Dieu, est à la fois rationnel, spirituel, conforme à l'ordre divin, il nous identifie à Jésus. C'est exactement ça. Il nous identifie à Jésus. Une fois encore, gardons les regards sur Jésus. Vous savez, il y a quelques années, le Seigneur m'a attiré mon attention sur le fait qu'on pense souvent à la croix. Quand on dit le sacrifice de Christ, on pense à la croix. Et c'est vrai que c'est le sacrifice ultime. Mais qu'en est-il des 33 années qui ont précédé ? De consécration, de labeur, d'abandon, de soumission à Dieu. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai presque été plus impacté par l'amour de Christ à travers la consécration qu'il avait eue pendant 33 ans d'affilée que par la croix. Est-ce que vous vous rendez compte ? De se lever alors qu'il fait encore nuit pour passer du temps avec Dieu. D'avoir peu d'amis. D'être rejeté, incompris. En constant conflit avec les gens qui vous entourent. Ses propres frères et sœurs se moquaient de lui. Son père, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Trente-trois années comme ça. Alors oui, c'est sûr, les 24 heures de la croix, c'est intense. Mais vous imaginez cette consécration en pensant à ces choses-là, en méditant sur ces choses-là. La Bible nous dit qu'il y a un bienfait. Ça va t'amener à être encouragé, à ne plus être découragé, à tenir ferme. Ensuite, et donc ça c'était un culte qu'il rendait à Dieu. Il a offert son corps comme un sacrifice vivant, mais pas qu'à la croix, les 33 ans qui ont précédé aussi, au quotidien. Au quotidien. Vous ne croyez pas que de temps en temps il avait envie de, de se défendre un peu ? Je veux dire, c'était un homme comme nous, nous disent les Écritures. Donc, je ne sais pas quelles étaient sa carrure, sa dimension, mais bon, il était fils de charpentier, donc on suppose quand même qu'il a développé une certaine musculature. Quelqu'un qui avait du tempérament, on est au Moyen-Orient, hein? Je pense que de temps en temps, il a fallu qu'il se maîtrise. Ça s'appelle offrir son corps comme un sacrifice vivant. Bon. Ensuite, J'essaie de sabrer parce que je vois le temps qui passe. Vous le lirez tout simplement dans 1 Jean 2, chapitre 1 à 6. Il s'adresse à des chrétiens et dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ça afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier également. Si nous gardons les commandements de Christ, obéir, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend avoir connu Christ alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. » Boum. Ah, mais je connais le Seigneur. Ok, montre-le-moi au quotidien. Non, mais tu fais ta liberté un voile pour faire ce que tu veux, finalement. Donc, tu ne connais pas le Seigneur. C'est pas grave, hein, ça se soigne, mais c'est une réalité. Et la vérité n'est pas en lui. Oh, ça veut dire que je vais en enfer? Non, pas du tout. Ton âme est née de nouveau, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vis pas en toi, à l'intérieur de toi, selon la vérité. C'est-à-dire conformément à la parole. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole, c'est-à-dire qui lui obéit. C'est à ça que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Je répète, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Il nous est dit ici qu'en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait. Le mot parfait en grec, c'est teleio. Et ça parle de plein potentiel, maturité parfaite. C'est-à-dire, vraiment, tu as atteint le but exact que tu t'étais fixé, c'est on ne peut pas aller plus loin, tu es au taquet. En celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu devient parfait. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais comme tout le reste, cet amour, c'est comme une semence. Ça peut se perfectionner. Ça peut grandir, ça doit arriver à son plein potentiel. Et vous relirez notamment dans Éphésiens, il est question de ça. Afin qu'on comprenne la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ, que vous soyez fermement enracinés dans l'amour. Et ici, il nous est dit, dans celui qui garde les commandements, on parle de quoi? Des bienfaits de l'obéissance. Un autre bienfait de l'obéissance, l'amour de Dieu devient parfait en toi. Là encore, il y a une fine ligne qui consiste à dire, si on la franchit, à Dieu même parce que je le respecte, parce que je lui obéis. Faux. Dieu t'aime autant qu'il ne pourra jamais t'aimer dès à présent, toi, pécheur, qui va en enfer, qui écoute ce message. Ça ne changera rien. Il t'aime au maximum de ce qu'il ne pourra jamais t'aimer. Il est amour. Donc, il ne peut pas faire autre chose qu'aimer. Mais, toutefois, l'amour de Dieu en nous peut être rendu parfait. C'est un processus de maturation exactement comme un fruit. C'est exactement la même chose. Un des bienfaits de l'obéissance, c'est que l'amour de Dieu, et on connaît les résultats de l'amour de Dieu en nous, la première chose, c'est qu'il chasse la crainte. Mais il nous a dit que c'est l'amour parfait qui chasse la crainte. Tu dis, je sais que Dieu m'aime, mais j'ai toujours peur. Parce que l'amour n'a pas écor. Il a besoin de mûrir en toi, cet amour. Et la Bible nous dit ici qu'une des manières de le faire, garder sa parole. Ça, c'est un bienfait supplémentaire de l'obéissance. Est-ce que tu savais que, si on synthétise, en gardant la parole de Dieu, tu auras de moins en moins peur dans la vie. Intéressant, hein? Et beaucoup moins cher que les anxiolytiques. Bien. Christ a vécu dans l'obéissance à Dieu, vous lirez également dans Hébreux, chapitre 5, il nous a dit au verset 8, qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ce n'est pas uniquement, une fois encore, la croix. Il a appris, homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous connaissez ce verset dans Isaïe quand il est question de Jésus? Ça ne veut pas dire qu'il était malade, hein? Mais au quotidien, vivre ces choses-là, c'est une souffrance. D'ailleurs, vous relirez, si vous le souhaitez, le livre « La question de la souffrance » du pasteur Mac Hammond. Il détaille les différents types de souffrances. Celle qu'un chrétien n'a pas à subir, et la dernière, c'est celle que le chrétien aura à subir. La souffrance en obéissant à Dieu. À un moment donné, ça va tirailler. Bonne nouvelle. Et en plus, vous allez payer pour lire ce livre. C'est ça qui est extraordinaire. Tu en as ? Bon. Christ a appris l'obéissance, bien qu'il fût lui-même fils de Dieu, par les choses qu'il a souffertes. Il nous est dit au verset 15, vous le lirez également, que Dieu nous a appelés, et parce qu'il est saint, nous devons également être saints dans toute notre conduite. Vous savez que quand Dieu vous appelle, il vous équipe. Dieu n'est pas un sadique, il n'est pas en train de dire « Ah, allez, maintenant, à toi de sauter !» Comment ? Ça fait 53 mètres de long. Ah ben, il va falloir que tu te débrouilles, moi. Non. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous équipe pour cela. C'est même mieux que ça. Il le fait en nous. Parce que c'est lui. Terry Copeland avait dit une fois, quand tu pries Dieu pour qu'il te donne quelque chose, il ne te donne pas quelque chose, il se donne lui-même à toi. Il est ta provision. Ce dont tu as besoin ne vient pas de lui, c'est en lui. Et donc, quand il se donne à toi, il te donne ce dont tu as besoin. Et c'est exactement cela. Quand il nous appelle, ce n'est pas seulement qu'il nous équipe en disant « Tiens, je te donne la clé ». Non, je suis la clé et je viens en toi pour le faire. Donc, s'il nous appelle à être saint, c'est qu'on peut le faire. On a vu qu'on était mort au péché, baptisé dans la mort de Christ, libéré de l'esclavage du péché. Ok ? Ok. Et pour terminer, regardez avec moi deux autres versets, s'il vous plaît. Le premier se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1. Les bienfaits de l'obéissance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Il nous est dit... C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Intéressant. À méditer. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, donc ça veut dire que quand tu n'es plus dans l'ignorance, il y a un changement qui se produit en toi. Vous savez, mon peuple périt par manque de connaissance, c'est de cela dont il s'agit. Quand tu connais la parole de Dieu, elle provoque du changement en toi. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, c'est là le verset qu'on a vu, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Mais ça ne veut pas dire, je t'ordonne d'être saint parce que tu vas être comme moi, alors tu vas... Non, c'est pas ça. Puisque Dieu est en nous, si il est saint, alors nous le sommes aussi. Vous serez saints parce que moi je suis saint, et la fin de la phrase c'est, et que je suis en vous. Vous comprenez ? Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Voilà une autre question à se poser. Quelle est mon attitude ? Est-ce que je suis... casual en anglais. Est-ce que je suis un peu nonchalant ? Est-ce que je suis un peu par-dessus la jambe avec Dieu ? Ou est-ce que je me conduis avec une crainte respectueuse ? Respectueuse. C'est pour ça qu'on insiste un peu des fois, vous savez, sur la mise en place de la salle, au culte, le fait que les vêtements soient sur des cintres, etc., etc. Parce que ça participe à ce respect que l'on apporte à Dieu, si vous voulez. On ne se comporte pas dans la présence de Dieu comme on se comporte quand on rentre chez soi dans sa chambre à coucher et qu'on balance la veste sur le lit. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ou de viser qui que ce soit, mais c'est une pensée qui me vient. Des fois, les gens disent « Ah, dans cette église, c'est un peu strict, c'est un peu, les chaises sont alignées, on se croirait un peu... » Oui, mais il y a une raison à ça. Ça participe au respect que l'on apporte à Dieu. La manière de parler, la manière de se comporter, la manière d'adorer le Seigneur, le fait que, des fois on dise, vous avez deux bras, deux jambes, vous êtes bien portant, levez-vous quand on adore le Seigneur. Parce qu'on n'adore pas Dieu assis. Ça fait un peu sarkozyste. On se lève devant le professeur. Mais c'est une bonne chose. C'est une marque de respect. Vous dites, oui, mais j'ai pas envie. Oui, mais c'est exactement de ça dont on parle aujourd'hui. L'obéissance, c'est quand on n'a pas envie. C'est quand notre chair dit voilà. Fatigué, les dimanches matin. Et on a changé d'heure. En plus. Oui, mais c'est ça. Une crainte respectueuse. Pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, et je ne reviens pas sur ce sujet que j'ai abordé la dernière fois, mais ce verset aurait pu être dans ma dernière prédication. La manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Nous avons été rachetés, il nous est dit dans ce verset, de cette façon de penser. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mais ensuite, il est dit, et c'est intéressant au verset 22, écoutez bien, vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité. C'est intéressant. Un autre bienfait de l'obéissance, elle va purifier ton âme. Ta façon de penser, tes émotions, ta vision erronée du monde ou d'une certaine partie du monde ou de certains événements qui sont arrivés, tes souvenirs, tes émotions, tout ce qui est dans l'âme est purifié par l'obéissance à Dieu. Génial, non ? Pour avoir un amour fraternel sincère, parce que le résultat d'une âme purifiée, c'est que ton amour pour autrui va se développer. Et vous lirez enfin chez vous, Hébreux 5, 14, il nous est dit, « La nourriture solide est pour les hommes faits, parfaits, c'est-à-dire téléios, le même genre, le même mot qu'on a vu tout à l'heure à propos de l'amour, parvenus à leur pleine maturité, à leur plein potentiel. » La nourriture solide est pour ce genre d'individu, ce genre de personne. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici ? Il nous est dit, parce qu'il faisait un petit reproche aux Hébreux, il dit « Vous auriez dû être des maîtres, vous êtes toujours des nouveau-nés. Vous en êtes encore à consommer du lait. » À 25 ans, c'est embêtant, le Gaïa. Troisième âge. Vous en êtes encore à consommer du lait. Vous devriez en être à la côte de bœuf, mais vous ne pouvez pas, parce que la côte de bœuf, vous n'arrivez pas à l'avaler. Vous n'arrivez pas à la comprendre. C'est trop dur pour vous. Vous vous souvenez, à un moment donné, les disciples, quand ils ont entendu parler Jésus, ils ont dit « Ouf, cette parole est dure, qui peut la supporter ?» C'est exactement ça. Il y a une gradation dans les choses de Dieu. Et ici, Paul faisait un reproche en disant « Vous en êtes encore au lait, vous devriez être des maîtres. » Mais la nourriture solide, elle est pour ceux qui sont parvenus à une pleine maturité. Téléios. C'est-à-dire, et c'est là où c'est intéressant.
C'est-à-dire,
il fait des souffles ce micro, c'est... Pour ceux, on pourrait dire pour les hommes faits, c'est-à-dire ah, pour ceux qui ont fait 10 ans d'école biblique. Pour ceux qui sont depuis, dans l'église depuis 25 ans. Pour ceux qui ont fait 4 voyages missionnaires. Pour ceux qui se sont engagés fidèlement et ont souffert comme de bons soldats du Christ. À la sono, à l'accueil, à la comptabilité, à l'organisation de tout et n'importe quoi. Non. Tu sais comment tu deviens parfait ? Un des critères pour juger la perfection, la maturité, c'est savoir si ton jugement, si tu as un jugement qui est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Par l'usage. Par l'usage. Ça veut dire quoi discerner ce qui est bien et mal ? Qu'est-ce qui est péché ? Qu'est-ce qui est volonté de Dieu ? En quoi est-ce que je vis selon la chair ? En quoi est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu ? Il ne s'agit pas de juger son voisin, hein. Il s'agit juste de juger soi-même. Même si à un moment donné, peut-être, tu devras évaluer l'attitude de quelqu'un. Mais en attendant, c'est de nous dont il s'agit, de soi-même. Par l'usage, ça veut dire quoi par l'usage ? Ça veut dire que c'est progressif, les amis. Ça veut dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron dans cette histoire-là. Et qu'il ne faut pas se décourager si on échoue, et qu'il ne faut pas se décourager si on a l'impression que la croissance est lente, et qu'il ne faut pas... Non, non, non. Par l'usage, et avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tu exerces ton jugement à discerner ce qui est bien et mal. Dans ces conditions-là, eh bien, c'est un autre bienfait de l'obéissance, toi-même, tu vas mûrir. Ce qui veut dire, tes dents de lait vont commencer à pousser, et tu vas pouvoir arrêter le Gaïa troisième âge et commencer à et passer à la compote de pommes. Bien broyé d'abord, puis avec des morceaux. Et ensuite, c'est le poulet. Enfin, ceux qui ont eu des enfants, vous savez de quoi je parle. Hein. Jusqu'à enfin pouvoir dire, il va manger comme nous. Et le bœuf sera pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi, concrètement, au-delà de la métaphore rigolote? Ça veut dire que la parole de Dieu, ta révélation de la parole de Dieu va grandir. Les différentes strates vont pouvoir être franchies au fur et à mesure. Un des bienfaits de l'obéissance, c'est que tu grandis spirituellement, tu mûris. Plus tu es mûr, plus tu comprends la parole de Dieu, plus elle t'est révélée, plus tu peux entrer dans des choses profondes avec Dieu. Et plus c'est facile à vivre. Bien. Au boulot.